d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir et bienvenue sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires animée ce soir par des gens du PIAF et d'Attac. Et nous recevons ce soir Gilles d'Attac qui va nous parler du fauchage de chaises.
Bonjour.
Jean-Marc n'étant pas là, nous allons quand même faire de l'actualité avec Gaël qui va nous parler du Portugal.
Oui, en France, alors que certains socialistes, entre guillemets, beaucoup de guillemets, rêvent tout haut de se fondre avec la droite, le PS portugais a suivi le chemin inverse. En effet, des élections législatives ont eu lieu au Portugal le 4 octobre, à l'issue desquelles le PS, Parti social-démocrate, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un parti de droite, est arrivé premier, mais minoritaire au Parlement. Et le PS pouvait constituer une majorité face au PSD en s'alliant avec le PC et le bloc de gauche. Et c'est ce qu'il a fait, sur la base d'un accord de gouvernement clairement orienté à gauche. La ligne générale de ce programme commun, c'est de détricoter les mesures d'austérité du gouvernement de droite précédent et de renforcer la politique sociale. Les points principaux de cet accord, c'est la revalorisation des pensions, une augmentation progressive du salaire minimum de 500 à 600 euros, la lutte contre le travail au noir, la restitution aux fonctionnaires des pertes de salaire imposées par la droite, le rétablissement des jours de congé supprimés par la droite, l'augmentation de la progressivité de l'impôt sur le revenu, des tarifs sociaux de gaz et d'électricité automatiques pour les ménages les plus modestes, et l'annulation des privatisations des compagnies de transport et de gestion des déchets, et un engagement à ne faire aucune privatisation ou concession. Donc cet accord de gouvernement est important à deux titres. Déjà au niveau du Portugal, c'est historique, parce que le PS avait pris ses distances avec la gauche révolutionnaire dès le lendemain de la révolution des œillets en 74. Et il avait même, dès 1983, préféré s'allier avec la droite plutôt qu'avec le PC. Et plus récemment, c'était un gouvernement PS, celui de José Sócrates, qui avait mené la politique d'austérité avant d'être battu par la droite, qui avait mené à peu près la même politique, mais en pire. C'est donc une division profonde et ancienne de la gauche portugaise qui a été surmontée. Au niveau européen, c'est aussi un événement parce que c'est le premier pays dans lequel, après des années de social-libéralisme, un parti socialiste renoue avec la gauche. Ces derniers temps, la tendance était plutôt des grandes coalitions avec la droite, comme en Allemagne. Alors la question qui se pose, c'est après l'échec de Syriza en Grèce, est-ce qu'il y a la place pour une politique nationale anti-austérité au sein de l'Union européenne ? Alors il y a au moins deux raisons d'espérer. La première, c'est que le Portugal n'est pas la Grèce. Contrairement à la Grèce, le Portugal ne dépend plus d'un plan d'aide de l'Union européenne, donc on a moins de moyens de chantage sur lui. La deuxième raison, c'est que le gouvernement ne tiendra que s'il est soutenu par la gauche radicale. Le PS n'a pas la majorité seule. Il y a donc une pression interne énorme. Alors ces élections, c'est une belle claque pour tous les autocrates. Pour tous les éditocrates qui prévoyaient le couronnement par les urnes de la droite austéritaire, et elles offrent surtout, après l'échec grec, une deuxième chance pour une vraie politique de gauche en Europe.
Et on continue sur l'Europe, on change juste de frontière, parce qu'en côté de Portugal, en Espagne, il y a eu des élections il n'y a pas si longtemps pour les municipales, et puis il y aura le 20 décembre prochain des élections générales en Espagne, et là aussi les deux blocs traditionnels qu'on connaît bien en France entre un parti socialiste fort et un parti qui en Espagne s'appelle le PP, le Partido Popular, le parti de droite espagnol qui est actuellement au pouvoir. Bref, ces deux gros blocs avaient globalement la même politique économique. Et vous avez peut-être entendu parler quand même de Podemos, le petit parti a priori placé dans une logique très proche de Syriza, une sorte de remise en cause de la politique telle qu'elle est faite habituellement, avec une volonté d'être plus proche des citoyens et d'être en tout cas une émergence de la base et non pas une notion dictée par le haut. Néanmoins, ce parti, avec à sa tête... je retrouve son nom, Rivera, à Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, leader de Podemos, je vais inverser, s'est retrouvé en difficulté dans pas mal d'élections ces derniers temps, et vous avez peut-être pas entendu parler, mais une quatrième force politique est apparue au municipal, avec pratiquement 10% des voix pour un parti qui existe depuis 2006, qui faisait à peine 0,18% aux élections générales, 3,16% aux européennes en 2014, et qui là vient de faire 10% aux élections municipales. Et ce parti, bah, malheureusement, il n'est pas tout à fait à gauche, il ressemble finalement à notre parti, le Modem, vous savez, ces petits partis au centre, qui parfois, dans la 4ème République, ont réussi à faire parler d'eux, mais qui, dans la 5ème République, finissent par un peu ne pas exister. Il s'appelle Ciudadanos, les citoyens, en version française. Ce parti, qui était resté confidentiel, est arrivé sur la scène publique en prenant deux grands principes. L'un, c'est l'anticorruption, un thème fort en Espagne, et puis une rétribution juste des richesses, mais sa véritable force, c'est d'être un petit peu le faiseur de roi, en étant le parti qui se retrouve entre gauche et droite. Alors imaginez qu'il y a des boulevards pour des partis politiques diverses, quand on voit le poids que prend le FN en France. D'autres pays ont des partis diverses. On vient de voir au Portugal un parti bien à gauche. Ici, en Espagne, le Podemos plus Ciudadanos, des partis à gauche du PS ou à droite du PS. On peut en espérer qu'un jour aussi se brise le poids du PS et du maintenant les Républicains en France, sans que ça soit évidemment le FN qui tire son épingle du jeu. Voilà. Encore une petite brève internationale. On va la tirer directement des brèves de Jean-Marc. Alors, le titre un petit peu brillant, c'est « Netanyahou, le Premier ministre israélien, monte sur les planches avec Dieudonné ». Alors, ça, c'est le titre pas très autorisé. Hein, en fait, la raison, c'est que dernièrement, le 21 octobre, Benjamin Netanyahou s'est présenté devant le Congrès sioniste à Jérusalem et a dit que l'inspirateur d'Hitler, l'inspirateur du parti nazi pour la solution finale vis-à-vis des juifs, lui avait été inspiré par le grand mufti de Jérusalem. Donc un chef religieux musulman qui était en Palestine à cette époque-là. D'ailleurs, s'il l'a rencontré, c'est en novembre 1941, alors que le grand mufti était justement en exil de Palestine et se retrouvait réfugié en Allemagne, où d'ailleurs il a été un collaborateur nazi en ayant recruté des musulmans pour faire des Waffen-SS dans les Balkans. Mais ce propos est totalement absurde historiquement. En 1941, bien malheureusement pour tous ceux qui en ont été les victimes, les massacres de ce qu'on appelle la Shoah par balle avaient commencé dès 1940 et étaient en tout cas malheureusement en plein régime dans l'année 1941, avec entre autres par exemple le 20 et 21 septembre, le fameux massacre de Babi Yar où il y a plus de 30 000 personnes mortes aux portes de Kiev. Imaginez que Hitler n'avait pas, ou en tout cas le parti nazi n'avait pas tout en tête avant même de rencontrer le grand mufti, c'est complètement un retour sur l'histoire qui est digne évidemment du révisionnisme que peut faire montre en France les révisionnistes comme font partie aujourd'hui Dieudonné. Voilà. Alors on sort un petit peu de l'actualité avec Marie, qui va nous parler d'un thème un peu plus vaste, mais qui est malheureusement d'actualité vu qu'il va parler des migrants. Et c'est un sujet assez fort, vu qu'il essaye de nous expliquer que les migrants ne sont pas forcément un problème économique, voire peut-être même le contraire.
Depuis peu, le FN a repris à son compte des thèmes chers à la gauche critique et axé son discours économique sur la critique du néolibéralisme et la défense des travailleurs. C'est ainsi que Marine Le Pen soutient l'idée que l'immigration régulière constitue, je cite, « une armée de réserve prête à s'employer aux pires conditions » et que cette immigration irrégulière crée une concurrence déloyale pour les salariés réguliers en tirant les salaires vers le bas. Or, sur ce point, il est facile de mettre le FN face à la pauvreté de ses raisonnements économiques. Car quel meilleur moyen de mettre fin au problème des clandestins qui fragilisent le marché du travail que de régulariser tous les sans-papiers ? Mais on arguera que la régularisation des sans-papiers ne règle pas, et intensifie même, la concurrence intrasalariale ordinaire en faisant grossir une population d'actifs déjà confrontée à la pénurie d'emplois. En fait, le lien entre démographie et emploi est plus complexe. L'histoire l'a prouvé quand dans l'après-guerre, la croissance démographique a coïncidé avec une période de plein emploi. Car plus de travailleurs, cela veut dire plus de consommation, plus de demandes et donc finalement plus d'emplois. Mais ça, c'est un régime d'accumulation fordien, et c'est une époque révolue. Aujourd'hui, la doctrine néolibérale soutient que la déréglementation généralisée produit de la croissance, ce qui devrait créer des emplois. Or, on voit bien qu'il n'en est rien. D'abord, il y a le pouvoir actionnarial, qui exige toujours plus de rentabilité. au lieu d'utiliser leurs bénéfices pour développer des projets d'investissement et donc embaucher de nouveaux travailleurs, les entreprises se saignent en dividendes faramineux pour satisfaire des actionnaires toujours plus gourmands. Et puis, il y a les pertes d'emplois liées aux délocalisations et à la concurrence distordue du libre-échange. En effet, dans nombre de secteurs, comment les biens produits localement peuvent-ils rivaliser avec les produits de pays dont les salaires sont largement inférieurs aux nôtres ? L'argent des consommateurs va donc nourrir le développement d'entreprises étrangères et laisse péricliter les entreprises locales. La pénurie d'emplois n'a donc rien à voir avec la présence d'immigrés sur le territoire. Elle est bien plutôt le résultat des politiques néolibérales qui apparaissent dès lors comme un régime économique paradoxal. Il y a bien création de capital, mais au détriment de l'investissement et de l'emploi.
Et nous allons écouter maintenant « Rallumeur d'étoiles » de HK et les Saltimbanques. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires qui est aujourd'hui présentée par les membres de l'Attaque et du journal Le Piaf. Et Gaël va justement interviewer Gilles d'Attaque.
Eh oui. Alors Gilles, depuis début 2015, il se passe une drôle de chose. Les gens volent des chaises dans les banques. Alors normalement, on vole des billets dans les banques. D'où vient cette drôle d'idée ?
L'objectif, c'est de voler des chaises, non pas des billets de banque, bien sûr. C'est des actions de désobéissance symbolique, mais bien sûr, malgré tout, illégales. Et ça a commencé effectivement début 2015, coïncidant un petit peu avec la parution du livre d'Attaque, le livre noir des banques. Et le tout premier fauchage a été organisé par BC dans une agence de Bayonne.
Donc BC, c'est une organisation altermondialiste basque, c'est ça ?
C'est ça. C'est ça. Et c'était au moment de l'affaire, je crois, Falciani, c'est-à-dire la personne qui avait publié une liste de Français ayant caché son argent en Suisse pour ne pas payer d'impôts. Et donc, sur le thème des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale, il y a eu ce fauchage en disant que HSBC volait les contribuables, volait l'État français, et il y avait un vol de chaises. Et à peu près au même moment, Attaque avait prévu durant toute l'année de faire une campagne qu'on appelle une campagne requin, contre les requins de la finance, contre la BNP. Et de manière à exiger de la BNP qu'il se retire des paradis fiscaux et notamment des îles Caïmans. Et donc Attaque a repris aussi la même idée. Il y a eu un fauchage de chaises, et là-dessus il y a eu d'autres. Il y a eu un appel à fauchage, et beaucoup de comités locaux d'Attaque ont commencé à faucher des chaises.
Et alors pourquoi des chaises ? Pourquoi pas des, je sais pas, des...
Des
pourquoi
de
pas des tables,
des stylos, les chaises c'est facile à emporter, ou des fauteuils c'est facile à emporter, d'autre part. Le côté symbolique, on parle d'un siège, on parle du siège d'une entreprise, on parle de chaises, etc. Donc ça permet dans notre communication de faire des jeux de mots. Et d'autre part, ces chaises très rapidement ont été prêtées, transférées à d'autres associations ou alors à des personnes connues, Patrick Vivray, Edgar Morin. Et là-dessus, on peut prendre en photo Edgar Morin, Patrick Vivray, assis sur la chaise. Donc d'un point de vue communication, mise en visibilité, l'aspect médiatique entre guillemets, c'est le principe des chaises permet d'être exploité de cette manière.
Un des propos humoristiques, c'était de dire que prendre ses chaises, ça permettait d'asseoir de nouveaux arguments au débat.
Voilà, ben voilà, tu as parfaitement compris. Voilà, et on peut effectivement broder autour du thème des chaises. Et d'autre part, effectivement, c'est facile à faucher et tout seul. Enfin, comment dire, plusieurs personnes, mais individuellement, on peut prendre chacun une chaise. Voilà.
Puis ça permet de relocaliser le siège des banques en France.
Voilà, je vois tous avec compris.
Tous les chevaux sont possibles. Donc, Attac a appelé à généraliser ce fauchage de chaises et donc Attac a appelé à faire une réquisition citoyenne de 196 chaises avant et pendant la COP21.
Oui, alors en fait, c'est pas Attac finalement. Après, il y a un ensemble d'organisations qui a fait cet appel. Mmh. Il y a Bici dont on a parlé, il y a les Amis de la Terre, il y a Attac, et effectivement, ça devient un petit peu l'industrialisation. Et l'objectif, effectivement, c'est de faucher 196 chaises, c'est-à-dire autant de chaises que de pays qui seront présents pendant la COP21. Pendant la COP21, il y a 195 pays plus l'Union européenne. Et le 6 décembre, pendant le Village mondial des alternatives, le dimanche 6 décembre, il y aura un sommet des chaises où on apportera toutes les chaises. Alors pourquoi, quel rapport avec la COP21? Ben, parce que l'argent de la transition énergétique se trouve dans les paradis fiscaux.
D'accord. Et c'est quelles banques plus précisément qui sont visées?
La banque la plus visée, c'est la BNP. D'accord. Il y a d'autres banques qui sont fauchées, mais la banque principalement visée, notamment par Attac, c'est la BNP.
C'est une de celles qui a le plus d'agences dans les paradis fiscaux.
C'est l'une des banques les plus dangereuses du monde, de France, et c'est la plus grande banque de France. Et c'est l'une des banques les plus dangereuses. C'est une banque qui dispose de beaucoup de paradis fiscaux. Et voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu cibler la BNP.
D'accord. Et donc pour l'instant, vous en êtes à combien de chaises?
Ah, alors cette semaine, on a dépassé les 196 chaises.
Ah. C'est bête,
voilà. Voilà, donc justement,
amis banquiers, n'ayez plus peur.
Voilà, justement, avant la réunion, avant l'émission, je voulais voir où nous en étions et on a passé les 196 hier ou avant-hier.
D'accord, mais les actions vont quand même se poursuivre.
Les actions vont se poursuivre et on verra ce qui sera déclaré lors de ce sommet des chaises, mais je pense qu'il y aura des déclarations à étendre l'action même au-delà de la France.
D'accord. Alors
comment ça se passe en pratique? Alors on voit des militants arriver, ils se mettent devant la banque, on ouvre la porte et puis il y a un banquier qui se demande ce qui se passe.
Ils ont un bas sur la tête.
Alors, non, mais c'est tout à fait ça. Ça se passe très facilement. En fait, on est presque surpris, presque déçu par la facilité de l'action. On entre dans la banque, poli, souriant, et il y a une personne qui explique au directeur de la banque ou à un conseiller pourquoi nous sommes là. Et puis d'autres personnes rentrent dans la banque, récupèrent des chaises ou des fauteuils, sortent de la banque. Et puis après, en général, une photo est prise. Et les chaises sont en général données à différentes associations. Et on sait où se trouvent les chaises, bien sûr. Ou alors elles sont données à des personnalités. Et comme je le disais, lors du sommet des chaises, nous récupérons toutes ces chaises qui seront présentes à Montreuil le 6 décembre.
Donc ça veut dire que tout est fait à visage totalement découvert.
C'est à visage découvert, oui, oui. C'est tout à fait désobéissance non violente, visage découvert, en étant poli, en étant souriant. Et voilà, ça se passe très bien.
Les gens qui mènent ces actions prennent un risque. Est-ce que certains ont été arrêtés, ont eu des ennuis?
Oui. Alors récemment, la semaine dernière, je crois, il y a une personne à Bordeaux, qui a été mise en garde à vue, et d'autre part à Strasbourg, la semaine dernière aussi. Il y a un journaliste qui suivait une opération et qui a été mis en garde à vue. Alors, bien sûr, c'est tout à fait inacceptable, ridicule, de la part d'une banque de porter plainte et de faire en sorte qu'une personne soit mise en garde à vue pour quelque chose aussi ridicule si on compare aux méfaits de l'ensemble des banques.
Donc finalement, il y a un risque, mais finalement, ce risque est contrebalancé par le ridicule dans lequel se mettrait une banque en vous attaquant. Donc,
mais
il n'y a pas eu d'attaque. Enfin, les banques ne vous ont pas attaqué pénalement.
Alors, il est évident que c'est une action illégale. On n'a pas le droit de le faire. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une action de désobéissance, parce que malgré tout, les militants prennent un risque. Mais ce risque est connu et assumé.
D'accord, oui, comme dans toute action de désobéissance civile.
Voilà. Et c'est même pire que ça, c'est qu'on pourrait, les personnalités qui ont récupéré une chaise, les associations sont toutes coupables de recel, de bien voler, en réunion, avec complicité de...
Et pour aller dans ton sens, attaque lors d'une manifestation, je me souviens plus quand, ça devait être en avril ou en mai, il y avait eu une manifestation contre les lois Macron, je crois. Et donc, comme souvent, attaque est sur un point fixe au bord de la manifestation, et il y avait des fauteuils réquisitionnés, et avec une grande banderole, soyez complices de ces réquisitions, et nous photographions les personnes qui le souhaitaient, qui s'asseyaient. Vous pouvez aller sur le site d'Attaque, il y a un portfolio.
Alors ça rappelle surtout le terme fauchage, les faucheurs volontaires d'OGM d'il y a quelques années, ou peut-être aujourd'hui d'autres groupes qui font des actions parfois un peu fortes, comme peut-être, dans un sens, les salariés d'Air France dernièrement. Il y a une volonté de dire... On est dans un carcan, certes, de lois pour que les gens vivent ensemble, mais ces lois bénéficient à ceux qui détournent l'argent dans certaines banques, à leur profit ou carrément des politiques. Et là, c'est un cadre de désobéissance civile relativement poli, mais pour sortir de ce cadre. C'est bien cette même démarche.
C'est cette même démarche.
Alors cette même démarche mène parfois aussi à des artistes qui sont capables de dire ce qu'ils veulent nous faire entendre. Et par exemple, est-ce que vous êtes capable de résister à cette technologie et ces nanotechnologies qui nous entourent avec Zoufris Maracas ? Écoutez Fréquence Paris Pluriel avec l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, présentée ce soir par des militants d'Attaque et du journal Le Piaf. Et nous recevons Gilles d'Attaque qui nous parle depuis un moment du fauchage de chaises. Et nous parlions de pourquoi ce fauchage a lieu. Et entre autres, un des deux objectifs, c'était les paradis fiscaux, la lutte contre les paradis fiscaux. Et ça, c'est quelque chose que les banques font et c'est en lien avec ce qui va bientôt se produire, la COP21, parce qu'une bonne partie de l'argent et des fonds pas transité, comme tous les fonds, par ces paradis fiscaux.
Oui, tout à fait. Attaque, lutte, bien sûr, contre les paradis fiscaux. Et les banques utilisent énormément de paradis fiscaux. Je parlais de la BNP. Et les banques sont beaucoup dans les paradis fiscaux et c'est la raison pour laquelle on fait ces mobilisations.
Alors il y avait un exemple très concret qui était celui du projet AlphaCol.
Ça c'est une victoire. Je vous disais tout à l'heure que cette année on ciblait la BNP, l'année dernière on avait ciblé la Société Générale et nous avons gagné. Alors la Société Générale souhaitait financer un grand projet minier AlphaCol En Australie. Alors, je rentre pas dans le détail, mais les dégâts écologiques auraient été énormes, notamment concernant la barrière de corail. Et donc, il y a eu une grande campagne menée par ATTAC et par d'autres organisations, un petit peu toujours les mêmes, BC, les Amis de la Terre, etc. Au mois de décembre dernier, nous avons eu la bonne surprise de recevoir un message de la Société Générale disant que la Société Générale décidait de se retirer du projet AlphaCool. Et donc, on peut voir que certaines luttes, certaines mobilisations de ce type mènent à des victoires.
Dès qu'on touche à leur image, finalement, ça...
Voilà. Donc, effectivement, on pourrait dire faucher des chaises. Bon, c'est un petit peu vu comme ça, c'est un petit peu ridicule. Ça, comment dire, ça ne grève pas les finances des banques, etc. Mais le moyen de gagner, c'est de toucher l'image des multinationales. Les multinationales tiennent beaucoup à leur image de marque. Et si on les ridiculise, elles n'aiment pas du tout. Et c'est ce que nous faisons en fauchant des banques ou en se déguisant en kangourou l'année dernière et en faisant des opérations dans les banques en kangourou. Voilà.
On avait lu d'ailleurs à l'antenne le communiqué officiel de la Société Générale qui se retirait du projet AlphaCool de manière assez grandiloquente. Et on se demandait qu'est-ce qui pouvait avoir fait peur à ces gens-là. Alors, une des raisons aussi, c'est que, outre l'image de marque, perdre des clients pour une banque, c'est une masse d'argent. On avait reçu d'ailleurs dernièrement Agnès Rousseau du livre Noir des banques, à qui on disait est-ce que c'est une menace pour les banques de perdre des clients, mais la perte des clients entraîne d'autres pertes, parce que c'est sur le nombre de clients et de dépositeurs qu'ils ont une assise financière, ils ont le droit de prêter davantage. Donc la guerre est continue entre les grands groupes, même si ils ont tendance à se regrouper en ce moment, et la moindre petite faille dans la communication, ça peut être une perte non négligeable de clients qui a une conséquence immédiate.
Voilà. Alors, je reviens sur l'objectif initial de lutte contre les paradis fiscaux. On a du mal à s'imaginer ce que ça représente. En quoi mettre de l'argent dans les paradis fiscaux, ça représente... En quoi c'est mal, voilà.
Le fait de mettre les paradis... quand on met de l'argent dans des paradis fiscaux, on échappe entre autres à l'impôt du pays, c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner énorme pour l'État, pour l'État français. D'autre part, passer par un paradis fiscal, ça permet de blanchir de l'argent, de faire circuler de l'argent non légal. Et voilà, si on abolit, si on supprime les paradis fiscaux, tout le financement, que ce soit de tous les trafics, tout genre trafic de drogue, etc., etc., serait quasiment résolu. Et alors, bien sûr, les entreprises aussi utilisent les paradis fiscaux, parce que quand on parle d'impôts, cela ne concerne pas seulement les individus, ça concerne aussi les banques. Et utiliser les paradis fiscaux, ça leur permet d'échapper à l'impôt sur les sociétés, etc.
Et on a une idée du montant, du manque à gagner pour l'État de tous ces placements, de tout ce qui échappe à l'impôt.
J'ai pas le montant sous les yeux.
Alors, je l'avais tout à l'heure, arriver à le retrouver, mais il est assez impressionnant, vu qu'il s'agit de pratiquement 20 000 milliards de dollars sont aujourd'hui cachés dans les paradis fiscaux. Le manque à gagner pour les États est estimé à 600 milliards par an. dont 60 milliards pour le seul État français. Et là, on peut faire une transition sur la COP21, parce que la COP21 prévoit un tout petit 100 milliards d'euros à investir pour l'écologie sur les années à venir. Donc, quand on imagine ces sommes qui sont dans les paradis fiscaux et le manque à gagner pour un État simple, seul, c'est massif.
Oui, donc il y a vraiment de quoi remplir le fonds prévu pour la transition énergétique des pays du Sud.
Alors ça fait la transition tout de suite pour COP21. Hein. Donc COP21, ça nous attend bientôt. Pour les médias, on nous rabâche que ça sera la semaine du 7 au 12 décembre prochain. Mais si ce sujet vous interpelle, c'est-à-dire si la planète vous interpelle, les rendez-vous militants sont déjà là. Alors un des slogans que j'aime bien, c'est « Les dinosaures aussi ont vécu un truc dans ce genre-là et ils n'ont rien fait non plus ». Alors si vous voulez pas faire partie des dinosaures qui disparaissent, rejoignez les rangs des militants COP21. Alors d'ailleurs, sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel, la semaine du 7 au 12 décembre sera consacrée toutes les soirées à COP21, et vous aurez l'occasion d'écouter peut-être des militants venus du monde entier sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel à l'écoute de tout ce qui va pouvoir se passer en marge du grand raout des grands de ce monde. Mais on peut détailler peut-être un peu en détail le calendrier des actions.
En marge du. Donc il y a le sommet officiel avec les officiels et puis les entreprises. Toutes vertes qui vont sponsoriser l'événement. Et puis à côté, il y a le sommet des altermondialistes, des écologistes. Est-ce que tu peux nous détailler un peu toutes ces actions?
En fait, il va y avoir énormément d'actions. On ne saura plus où donner de la tête. Je vais donner un certain nombre de dates qui ont été définies par ce qu'on appelle la coalition Climat 21. La coalition Climat 21 est une coalition qui regroupe 140 à peu près associations, et je ne rentre pas dans le détail, mais de toutes opinions et de sensibilités très différentes. Et différentes dates clés ont été définies. D'une part, partout dans le monde, il va y avoir des manifestations le 28 et le 29 novembre.
C'est ce qu'on appelle la marche mondiale pour le climat.
Voilà, c'est la marche mondiale pour le climat. Alors à Paris, ça sera le 29, et ça sera pas une manifestation classique avec les associations les unes derrière les autres, etc. Il y aura des blocs, des chapitres, puisqu'on va raconter une histoire, donc il va y avoir des chapitres les uns derrière les autres. En tête, un petit peu comme à la manifestation de New York l'année dernière au mois de septembre, il y aura les populations affectées, c'est-à-dire les peuples autochtones qui sont revenus à Paris et les différentes associations des quartiers de la région parisienne. Après, il y aura différents chapitres thématiques. Il y aura la défense de la nature, etc. Pour information, Attaque sera dans le chapitre « Nous savons qui sont les responsables » avec les antinucléaires, anti-gaz de schiste, anticapitalistes, etc. Et cette manifestation promet d'être bien vivante, bariolée. Je passe à la date suivante. C'est le week-end suivant, c'est le 5 et le 6. Ça sera à Montreuil, et tout Montreuil sera investi. Il y aura des tas de lieux, il y a une entente avec la mairie, et il y aura des tas de lieux à Montreuil qui seront investis, et il y aura deux événements en même temps et cohérents. D'une part, le Village mondial des alternatives, qui est organisé par l'Alternativa et qui est une sorte d'Alternativa mondiale, et d'autre part, le Climat Forum, qui sera un lieu de débat. Alors d'autre part, une autre date, du 7 au 11, au 104, il y aura un lieu d'échange et de mobilisation. Le 12, alors le 12, c'est une journée assez très importante.
Donc le 12, là on enchaîne les dates à toute vitesse, mais faut penser que le 7 au 11, c'est la semaine réelle de COP21. Donc c'est il y a le 104, ça sera un lieu qui sera en parallèle à tout ce que les médias vont nous raconter.
La COP21 est du 30 novembre au 11 décembre.
D'accord, elle est sur deux semaines entières.
Elle est sur deux semaines, justement.
Non, d'accord. Et le 12, par contre, c'est là où c'est important, c'est que c'est après. Les grands chefs d'État seront normalement repartis, ou ils traîneront pour acheter des bijoux place Vendôme, comme tout bon chef d'État qui se respecte, non ?
Alors, le 12, justement, c'est très important parce que si je compare avec Copenhague, à Copenhague, on disait que c'était le sommet de la dernière chance. Et après, le sommet de la dernière chance, c'était un petit peu la gueule de bois. Et là, on a voulu, le dernier jour, prendre date, dire que nous avons les derniers mots et prendre date pour les mobilisations qui continueront en 2016. Et le 12, il y aura deux opérations. D'une part, le matin, un encerclement du Bourget. On parlait de désobéissance civile, ça sera à nouveau de la désobéissance civile. On encerclera le Bourget. Et d'autre part, l'après-midi, d'une manière plus ouverte, il y aura un grand rassemblement et des chaînes humaines qui convergeront vers République, où il y aura un certain nombre d'actions qui permettront de prendre date pour la suite, sachant qu'il y a déjà des dates qui sont prévues pour 2016. Voilà, l'objectif est vraiment de continuer la mobilisation jusqu'en 2016 et de ne pas dire, bon, ben, c'est fini, on arrête.
Donc finalement, pour vous, ces deux semaines de mobilisation ne sont qu'un début d'une.
Et on va continuer le combat.
Terme.
Et l'idée aussi, c'était de dire que les chefs d'État vont faire une déclaration publique le 11, mais ça sera le peuple, les gens, qui auront le dernier mot.
Voilà, l'objectif est d'avoir le dernier mot.
Et voilà. Alors, on peut écouter justement sur ce sujet un petit bilan écologique de la planète, une écoloscopie par Denis Lefdup.
Vous écoutez Franche Info, il est 7h.
Notre maison.
Bonsoir, vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, la mission des chômeurs et des précaires, présentée aujourd'hui par les militants d'Attaque et du journal Le Piaf. Et nous venons de vous parler des faucheurs de chaises qui manifestent contre les banques et qui essayent de rassembler 196 chaises, enfin ils les ont déjà, pour protester contre beaucoup de choses, et entre autres contre la mainmise des banques sur les finances, l'investissement dans les paradis fiscaux, l'investissement dans des projets polluants et qui sont dangereux pour tous les travailleurs qui sont dans ces fameuses mines dangereuses, etc. Et nous avons parlé de tous les événements autour de COP21, c'est-à-dire autour de du grand out de tous les pays du monde qui aura lieu du 29 au 11 décembre à Paris et qui, en marge, vous verrez, on redonnera les dates à la fin, possède un grand calendrier militant. Mais tous ces militants viennent du monde entier et si on en croit beaucoup de réactions militantes qui ont été regroupées dans le journal Basta en date du 29 octobre dernier, et ça depuis on pourrait certainement en ajouter encore et encore, ce sont les difficultés pour les militants du monde pour venir à Paris, pour justement participer non pas au COP21 officiel, mais à tout ce qui va être autour. Alors justement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle, le gouvernement a fait valoir l'article 23 du code de frontières Schengen en disant « Nous pouvons refermer les frontières pour 30 jours ». C'est peut-être pour ça qu'ils ont attaqué qu'aujourd'hui. D'ailleurs, ils auraient dû, certainement voulu attaquer plus tôt s'ils en avaient eu le droit. Et ils l'avaient déjà fait en 2012 pour le G20 à Cannes. La Pologne l'avait fait aussi lorsqu'il y avait la conférence sur le climat à Varsovie en 2013. Alors je cite le texte « C'est réintroduction de contrôles aux frontières liées à la prévention du terrorisme, criminalité ou à des raisons de sécurité liées à l'accueil de réunions internationales ou d'événements sportifs. » Donc c'est un petit peu normal peut-être d'arrêter toute voiture ramenant un carburant de Kalachnikov. Mais si on regarde un peu les détails, on peut se demander qui va vraiment être limité pour l'entrée sur le territoire, parce que peut-être que les terroristes ont déjà fait rentrer toutes les Kalachnikov qu'ils voulaient. Par contre, les militants qui, eux, veulent certainement participer de manière beaucoup moins musclée aux événements n'ont peut-être pas et n'auront peut-être pas cette même chance. Par exemple, le président d'Attaque Togo a essuyé une demande de refus. On lui a répondu au Togo que son déplacement ne sera, enfin, dans l'ambassade de France, pardon, que son déplacement ne serait pas motivé. Il avait pourtant une invitation de la coalition COP21, une invitation d'Attaque France, qui disait que tous ses frais liés à son séjour seraient pris à la charge. Donc, comment est-ce qu'on peut refuser une invitation dans ce cadre-là. Alors, on peut remarquer qu'en fait, le Quai d'Orsay a dit que tout le monde serait accrédité, ne vous inquiétez pas, c'est des problèmes administratifs qui vont se lever. Mais il y aurait quand même une distinction, c'est-à-dire que quand quelqu'un est officiel pour avoir son visa pour aller à la COP21, invité directement par l'Élysée, il l'a immédiatement. Toutes les autres demandes peuvent passer outre. Prenons un autre exemple. Mouad Ghasmi, figure de proue contre la lutte de gaz de schiste, en Algérie. Et le 21 octobre dernier, il se rend au consulat de France à Alger, muni de l'invitation à la coalition Climat 21. Et on lui donne un rendez-vous, pas de problème, le 5 janvier 2016, soit un mois après la tenue de la réunion COP21 à Paris. Tout est fait pour limiter le nombre de gens qui vont venir à Paris. Le gouvernement sélectionne ceux qu'ils veulent voir participer dans les différents sommets officiels ou pas. Alors que le discours est totalement l'inverse. On dit qu'ils veulent que la société civile intervienne, mais cette société civile, si elle est un peu trop virulente, elle a droit à un refus. Et j'espère qu'ils pourront quand même rejoindre Paris prochainement. Alors, on va pouvoir faire un autre petit point d'actualité. C'est quelque chose de très intéressant. C'est un travail encore dans Basta, issu je n'ai plus la date de cet article, mais vous pouvez chercher dans Basta. Donc, bastamac.net, qui est un journal d'information passionnant et qui a l'habitude de faire des articles de fond là où d'autres n'en font pas. Par exemple, sur l'austérité budgétaire du FN. Alors, on pourrait se demander comment le faire, parce que le FN n'est officiellement pas au pouvoir. Enfin, c'est une question de jour, vu que le 6 et 13 décembre, ils sont quand même largement aptes à gagner et à conquérir trois au moins régions, semble-t-il. Et pourtant, ils ont déjà des gens sous leurs ordres, ces gens-là. On peut compter qu'en comptabilisant l'ensemble de toutes les communes dirigées par l'extrême droite, on peut trouver 450 000 personnes qui sont aujourd'hui directement administrées par le FN. Et ça fait 6 000 agents territoriaux. Statistiquement, on peut commencer à faire un petit bilan de leur action réelle, parce qu'évidemment, leur discours, si on écoute le FN et par exemple sa présidente, qui répète que le service public est un outil au service de l'égalité. Alors que la réalité, on peut la voir en détail, pour économiser 30 000 euros sur 30 millions, donc un argument d'économie certainement sensible, le maire du Pontet, FN, dans le Vaucluse, a supprimé, juste après son élection, la gratuité totale de la cantine scolaire, ce qui fait une augmentation non négligeable. On peut considérer que ça fait 10% du budget familial qui se retrouve immédiatement à ajouter pour des couples avec enfants à revenus très très basses. Lui, dans la même décision pratiquement, avait fait une augmentation immédiate de son salaire de 44%, 1000 euros par mois, pour une rémunération brute de 3 280 euros. C'est peut-être pour payer justement la cantine de ses gamins. On peut en ajouter tant et plus, à Villers-Cotterêts, le prix du repas de la cantine a augmenté d'un euro. Ça représente une augmentation de 20% pour des personnes à problèmes financiers comme touchant le RSA par exemple. Mais ce que je viens de dire là, on accuse le FN, mais on peut en trouver d'autres. Les Républicains sont aussi tout à fait habitués à ce genre de choses, et ils ont enlevé la gratuité à la cantine par exemple dans beaucoup de villes de France. Voilà, je prends cet exemple des cantines qui est tiré de Basta, mais l'article nous parle d'autres blocages au niveau social, avec par exemple la fin des centres sociaux, la fermeture des locaux pour les associations, la disparition de certains clubs sportifs qui n'ont pas l'air de plaire au maire. Voilà, quand on écoute le discours du FN, qui se veut être un discours qui plaît à une frange de la population, peut-être qui votait d'habitude à gauche, en tenant des propos dignes parfois du PCF ou des partis de gauche traditionnels, la réalité est bien tout autre. Alors on termine par l'agenda militant. Donc Gaël.
Oui, cette année, donc c'est la 13e édition du Festival de cinéma d'Attaque, et ça se passe du 5 au 28 novembre. Le thème cette année, c'est le climat. Donc le festival aura pour titre « Changeons le système, pas le climat ». Et ça se passe dans toute l'Île-de-France.
Marie ?
Oui, Hervé Kempf, le fondateur de Reporter, va vous passionner, vous pousser plus loin, car il a cette capacité tranquille mais efficace à donner cohérence, à convoquer des éclairages différents pour contribuer à comprendre et à chercher des voies. Ça se passe à Nanterre, à la salle des Guignons, le lundi 16 novembre, à 19h.
pour la mobilisation COP21, il y a une AG qui va avoir lieu le 19 novembre prochain à la Bourse du Travail. Donc, si vous voulez participer activement à tous les événements, vous les verrez face à vous. Hein, c'était ça.
Oui, c'est ça.
Et on enchaîne aussi sur Frédéric Lordon, dont on parle souvent ici, qui est à Sciences Po le 17 novembre à 19h. Il viendra parler, comme souvent, d'économie et de philosophie mêlées, structures et affects des corps politiques.
Les Amis du Monde Diplo organisent un débat sur climat et environnement, poser les vraies questions. C'est avec Philippe Descamps, rédacteur en chef du Monde Diplo, et Jean-Michel Dumais, journaliste. Ça se passe le jeudi 19 novembre à 19h au bar-restaurant Le Lieu-dit, 6 rue Sorbier, à Paris 20e.
Dans le cadre des Jeudis d'Acrimed, rencontre avec Audrey Guillet, journaliste et co-auteur de Le Viol, un crime presque parfait, et Lénaïque Bredoux, sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes. Ça a lieu le jeudi 26 novembre à 19h à la Bourse du Travail de Paris.
Alors, d'autres dates un peu plus loin, mais qu'il faut bien, sur lesquelles on insiste, bien sûr, il y aura le 5 décembre prochain une manifestation place Stalingrad à 14h à l'appel des organisations de chômeurs, AC, APIS, CGT chômeurs, MNCP, pour la justice sociale chômeurs salariés manifestant contre le chômage et la précarité. Alors, ces dates vont se détescoper à COP21, mais évidemment, plus il y a de gens dans la rue à protester, moins... Je suis content. Les dates de COP21, on peut les rappeler. On les a recitées tout à l'heure. La première date importante, c'est la marche mondiale contre le climat, les week-ends du 28 et 29 novembre. Pour Paris, ça sera le 29 à midi, place de la République. Ce ne sont pas forcément des manifestations, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi. N'hésitez pas à y aller. C'est une marche qui doit être historique mondiale, la plus grande possible pour protester. D'autres dates ont été données tout à l'heure par Gilles, comme des actions à Montreuil le week-end du 5 et 6 décembre avec des forum du village des alternatives. Il y aura aussi des actions, on n'a pas cité, de TAFTA pour protester contre les traités atlantiques le 8 décembre. Hein, on vous dit pas la date, mais si ça vous intéresse, allez sur Stop TAFTA, vous pourrez participer à cette action un peu de désobéissance civile. Il y aura des zones d'action climat toute la semaine du 7 au 11 décembre au 104 pour participer. Et puis la date auquel il faut vraiment marquer dans vos agendas, c'est le week-end qui suit la COP21, et surtout le 12 décembre, où il y aura une grande manifestation autour du Bourget qui doit elle aussi donner le dernier mot à COP21. C'est le peuple qui s'exprime et non les soi-disant élus. Eh bien, on remercie tout le monde. On remercie Gilles d'être venu nous parler des fauchages de chaises et de COP21. On remercie Marie, Gaëlle et Claude de la Technique. Et pour finir, on écoute une chanson de Seu George que Gaëlle, qui va s'envoler vers le Brésil, va nous
signer. Nina du Condominio.
C'est bon, tu attendras à ton visa.
Mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio lá do...